Vous ressouvenez-vous, monsieur, d'avoir entendu quelquefois dans les intermèdes qu'on nous a donnés cette année le fils de l'entrepreneur italien, jeune enfant de 10 ans au plus, accompagné quelquefois à l'opéra. Nous fûmes frappés, dès le premier jour, de l'effet que produisait sous ses petits doigts l'accompagnement du clavecin. Et tout le spectacle s'aperçut à son jeu précis et brillant que ce n'était pas l'accompagnateur ordinaire. Je cherchais aussitôt les raisons de cette différence, car je ne doutais pas que le sieur Moblet ne fût bon harmoniste et n'accompagnât très exactement. Mais quelle fut ma surprise, en observant les mains du petit bonhomme, de voir qu'il ne remplissait presque jamais les accords, qu'il supprimait beaucoup de sons et n'employait très souvent que 2 doigts, dont l'un sonnait presque toujours l'octave de la basse. Quoi ? Disais-je en moi-même, l'harmonie complète fait moins d'effet que l'harmonie mutilée, et nos accompagnateurs, en rendant tous les accords pleins, ne font qu'un bruit confus, tandis que celui-ci, avec moins de son, fait plus d'harmonie, ou du moins rend son accompagnement plus sensible et plus agréable. Ceci fut pour moi un problème inquiétant, et j'en compris encore mieux toute l'importance quand, après d'autres observations, je vis que les Italiens accompagnaient tous de la même manière que le petit bambin, et que, par conséquent, cette épargne dans leur accompagnement devait tenir au même principe que celle qu'ils affectent dans leur partition. Je comprenais bien que la basse, étant le fondement de toute l'harmonie, doit toujours dominer sur le reste, et que, quand les autres parties l'étouffent ou la couvrent, il en résulte une confusion qui peut rendre l'harmonie plus sourde. Et je m'expliquais ainsi pourquoi les Italiens, si économes de leur main droite dans l'accompagnement, redoublent ordinairement à la gauche l'octave de la basse. Pourquoi ils mettent tant de contrebasses dans leurs orchestres? Pourquoi ils font si souvent marcher leur quinte, note 13, avec la basse, au lieu de leur donner une autre partie, comme les Français ne manquent jamais de faire. Mais ceci, qui pouvait rendre raison de la netteté des accords, n'en rendait pas de leur énergie. Et je vis bientôt qu'il devait y avoir quelques principes plus cachés et plus fins de l'expression que je remarquais dans la simplicité de l'harmonie italienne, tandis que je trouvais la nôtre si composée, si froide et si languissante. Je me souvins alors d'avoir lu dans quelque ouvrage de M. Rameau que chaque consonance a son caractère particulier, c'est-à-dire une manière d'affecter l'âme qui lui est propre, que l'effet de la tierce n'est point le même que celui de la quinte, ni l'effet de la quarte la même que celui de la sixte. De même, les tierces et sixtes mineures doivent produire des affections différentes de celles que produisent les tierces et les sixtes majeures. Et ces faits, une fois accordés, il s'ensuit assez évidemment que les dissonances et tous les intervalles possibles seront aussi dans le même cas. Expérience que la raison confirme, puisque toutes les fois que les rapports sont différents, l'impression ne saurait être la même. Or, me disais-je à moi-même en raisonnant d'après cette supposition, je vois clairement que 2 consonances ajoutées l'une à l'autre mal à propos, quoique selon les règles des accords, pourront, même en augmentant l'harmonie, affaiblir mutuellement leur effet, le combattre ou le partager. Si tout l'effet d'une quinte m'est nécessaire pour l'expression dont j'ai besoin, je peux risquer d'affaiblir cette expression par un 3e son. Qui, divisant cette quinte en 2 autres intervalles, en modifiera nécessairement l'effet par celui des 2/3 dans lesquelles je la résous. Et ces tierces mêmes, quoique le tout ensemble fasse une fort bonne harmonie, étant de différentes espèces, peuvent encore nuire mutuellement à l'impression l'une de l'autre. De même, si l'impression simultanée de la quinte et des 2/3 m'était nécessaire, j'affaiblirais et j'altérerais mal à propos cette impression en retranchant 1 des 3 sons qui en forment l'accord. ce raisonnement devient encore plus sensible appliqué à la dissonance. Supposons que j'aie besoin de toute la dureté du triton ou de toute la fadeur de la fausse quinte. Opposition, pour le dire en passant, qui prouve combien les divers renversements des accords en peuvent changer l'effet. Si, dans une telle circonstance, au lieu de porter à l'oreille les deux uniques sons qui forment la dissonance, je m'avise de remplir l'accord de tous ceux qui lui conviennent, alors j'ajoute au triton la seconde et la sixte, et à la fausse quinte la sixte et la tierce. C'est-à-dire qu'introduisant dans chacun de ces accords une nouvelle dissonance, j'y introduis en même temps trois consonances qui doivent nécessairement en tempérer et affaiblir l'effet. En rendant un de ces accords moins fade et l'autre moins dur. C'est donc un principe certain et fondé dans la nature que toute musique, où l'harmonie est scrupuleusement remplie, tout accompagnement où tous les accords sont complets, doit faire beaucoup de bruit, mais avoir très peu d'expression, ce qui est précisément le caractère de la musique française. Il est vrai qu'en ménageant les accords et les parties, le choix devient difficile et demande beaucoup d'expérience et de goût pour le faire toujours à propos. Mais s'il y a une règle pour aider au compositeur à se bien conduire en pareille occasion, c'est certainement celle de l'unité de mélodie que j'ai tâché d'établir. Ce qui se rapporte au caractère de la musique italienne et rend raison de la douceur du chant jointe à la force d'expression qui y règne. Il suit de tout ceci qu'après avoir bien étudié les règles élémentaires de l'harmonie, le musicien ne doit point se hâter de composer parce qu'il sait remplir des accords, mais qu'il doit, avant que de mettre la main à l'œuvre, s'appliquer à l'étude beaucoup plus longue et plus difficile des impressions diverses que les consonances, les dissonances et tous les accords font sur les oreilles sensibles, et se dire souvent à lui-même que le grand art du compositeur ne consiste pas moins à savoir discerner dans l'occasion les sons qu'on doit supprimer que ceux dont il faut faire usage. C'est en étudiant et en feuilletant sans cesse les chefs-d'œuvre de l'Italie qu'il apprendra à faire ce choix exquis, si la nature lui a donné assez de génie et de goût pour en sentir la nécessité. Car les difficultés de l'art ne se laissent apercevoir qu'à ceux qui sont faits pour les vaincre, et ceux-là ne s'aviseront pas de compter avec mépris les portées vides d'une partition. Mais voyant la facilité qu'un écolier aurait eue à les remplir, ils soupçonneront et chercheront les raisons de cette simplicité trompeuse, d'autant plus admirable qu'elle cache des prodiges sous une feinte négligence, et quell'arte che tutto fa, nulla si scuopre. Voilà, à ce qu'il me semble, la cause des effets surprenants que produit l'harmonie de la musique italienne, quoique beaucoup moins chargée que la nôtre, qui en produit si peu. Ce qui ne signifie pas qu'il ne faille jamais remplir l'harmonie, mais qu'il ne faut la remplir qu'avec choix et discernement. Ce n'est pas non plus à dire que pour ce choix, le musicien soit obligé de faire tous ses raisonnements, mais qu'il en doit sentir le résultat. C'est à lui d'avoir du génie et du goût pour trouver les choses des faits. C'est au théoricien à en chercher les causes et à dire pourquoi ce sont des choses des faits. Si vous jetez les yeux sur nos compositions modernes, surtout si vous les écoutez, vous reconnaîtrez bientôt que nos musiciens ont si mal compris tout ceci que, s'efforçant d'arriver au même but, ils ont directement suivi la route opposée. Et s'il m'est permis de vous dire naturellement ma pensée, je trouve que plus notre musique se perfectionne en apparence, et plus elle se gâte en effet. Il était peut-être nécessaire qu'elle vînt au point où elle est, pour accoutumer insensiblement nos oreilles à rejeter les préjugés de l'habitude, et à goûter d'autres airs que ceux dont nos nourrices nous ont endormis. Mais je prévois que pour la porter au très médiocre degré de bonté dont elle est susceptible, il faudra tôt ou tard commencer par redescendre ou remonter au point où Lully l'avait mise. Convenons que l'harmonie de ce célèbre musicien est plus pure et moins renversée, que ses basses sont plus naturelles et marchent plus rondement, que son chant est mieux suivi, que ses accompagnements moins chargés naissent mieux du sujet et en sortent moins, que son récitatif est beaucoup moins maniéré et par conséquent beaucoup meilleur que le nôtre, ce qui se confirme par le goût de l'exécution. Car l'ancien récitatif était rendu par les acteurs de ce temps-là tout autrement que nous ne faisons aujourd'hui. Il était plus vif et moins traînant, on le chantait moins et on le déclamait davantage. Note 14. Les cadences, les ports de voix se sont multipliés dans le nôtre, il est devenu encore plus languissant, et l'on n'y trouve presque plus rien qui le distingue de ce qu'il nous plaît d'appeler air. Puisqu'il est question d'airs et de récitatifs, vous voulez bien, monsieur, que je termine cette lettre par quelques observations sur l'un et sur l'autre, qui deviendront peut-être des éclaircissements utiles à la solution du problème dont il s'agit. On peut juger de l'idée de nos musiciens sur la constitution d'un opéra par la singularité de leur nomenclature, ces grands morceaux de musique italienne qui ravissent, ces chefs-d'œuvre de génie qui arrachent des larmes, qui offrent les tableaux les plus frappants, qui peignent les situations les plus vives et portent dans l'âme toutes les passions qu'ils expriment. Les Français les appellent des ariettes. Ils donnent le nom d'air à ces insipides chansonnettes dont ils entremêlent les scènes de leurs opéras et réservent celui de monologue par excellence à ces traînantes et ennuyeuses lamentations à qui il ne manque pour assoupir tout le monde que d'être chanté juste et sans cri. Dans les opéras italiens, tous les airs sont en situation et font partie des scènes. Tantôt c'est un père désespéré qui croit voir l'ombre d'un fils qu'il a fait mourir injustement, lui reprocher sa cruauté. Tantôt c'est un prince débonnaire qui, forcé de donner un exemple de sévérité, demande au dieu de lui ôter l'empire ou de lui donner un cœur moins sensible. Ici, c'est une mère tendre qui verse des larmes en retrouvant son fils qu'elle croyait mort. Là, c'est le langage de l'amour, non rempli de ce fade et puéril galimatia de flammes et de chaînes, mais tragique, vif, bouillant, entrecoup, et tel qu'il convient aux passions impétueuses. C'est sur de telles paroles qu'il sied bien de déployer toutes les richesses d'une musique pleine de force et d'expression, et de renchérir sur l'énergie de la poésie par celle de l'harmonie et du chant. Au contraire, les paroles de nos ariettes, toujours détachées du sujet, ne sont qu'un misérable jargon emmiellé qu'on est trop heureux de ne pas entendre. C'est une collection faite au hasard du très petit nombre de mots sonores que notre langue peut fournir, tournés et retournés de toutes les manières, excepté de celles qui pourraient leur donner du sens. C'est sur d'impertinents amphigouris que nos musiciens épuisent leur goût et leur savoir, et nos acteurs, leurs gestes et leurs poumons. C'est à ces morceaux extravagants que nos femmes se pâment d'admiration, et la preuve la plus marquée que la musique française ne sait ni peindre ni parler, c'est qu'elle ne peut développer le peu de beauté dont elle est susceptible que sur des paroles qui ne signifient rien. Cependant, à entendre les Français parler de musique, on croirait que c'est dans leurs opéras qu'elle peint de grands tableaux et de grandes passions, et qu'on ne trouve que des ariettes dans les opéras italiens, où le nom même d'ariette et la ridicule chose qu'il exprime sont également inconnus. Il ne faut pas être surpris de la grossièreté de ces préjugés. La musique italienne n'a d'ennemis, même parmi nous, que ceux qui n'y connaissent rien. et tous les Français qui ont tenté de l'étudier, dans le seul dessein de la critiquer en connaissance de cause, ont bientôt été ses plus zélés admirateurs. C'est un préjugé peu favorable à la musique française que ceux qui la méprisent le plus soient précisément ceux qui la connaissent le mieux, car elle est aussi ridicule quand on l'examine qu'insupportable quand on l'écoute. Après les ariettes, qui font à Paris le triomphe du goût moderne, viennent les fameux monologues qu'on admire dans nos anciens opéras. Sur quoi l'on doit remarquer que nos plus beaux airs sont toujours dans les monologues et jamais dans les scènes. Parce que nos acteurs n'ayant aucun jeu muet, et la musique n'indiquant aucun geste, et ne peignant aucune situation, celui qui garde le silence ne sait que faire de sa personne pendant que l'autre chante. Le caractère traînant de la langue, le peu de flexibilité de nos voix, et le ton lamentable qui règne perpétuellement dans notre opéra mettent presque tous les monologues français sur un mouvement lent. Et comme la mesure ne s'y fait sentir ni dans le chant, ni dans la basse, ni dans l'accompagnement, rien n'est si traînant, si lâche, si languissant que ces beaux monologues que tout le monde admire en bâillant. Ils voudraient toucher le cœur et ne font qu'affliger les oreilles. Les Italiens sont plus adroits dans leurs adagios. Car lorsque le chant est si lent qu'il serait à craindre qu'il ne laissât affaiblir l'idée de la mesure, ils font marcher la basse par notes égales qui marquent le mouvement. Et l'accompagnement le marque aussi par des subdivisions de notes qui, soutenant la voix et l'oreille en mesure, ne rendent le chant que plus agréable et surtout plus énergique par cette précision. Mais la nature du chant français interdit cette ressource à nos compositeurs, car dès que l'acteur serait forcé d'aller en mesure, il ne pourrait plus développer sa voix ni son jeu, traîner son chant, renfler, prolonger ses sons, ni crier à pleine tête, et par conséquent, il ne serait plus applaudi. Mais ce qui prévient encore plus efficacement la monotonie et l'ennui dans les tragédies italiennes, c'est l'avantage de pouvoir exprimer tous les sentiments et peindre tous les caractères avec telle mesure et tel mouvement qu'il plaît au compositeur. Notre mélodie, qui ne dit rien par elle-même, tire toute son expression du mouvement qu'on lui donne. Elle est forcément triste sur une mesure lente, furieuse ou gaie sur un mouvement vif, grave sur un mouvement modéré. Le chant n'y fait presque rien. La mesure seule, ou, par parler plus juste, le seul degré de vitesse détermine le caractère. Mais la mélodie italienne trouve dans chaque mouvement des expressions pour tous les caractères, des tableaux pour tous les objets. Elle est, quand il plaît aux musiciens, triste sur un mouvement vif, gai sur un mouvement lent. Et comme je l'ai déjà dit, elle change sur le même mouvement de caractère au gré du compositeur, ce qui lui donne la facilité des contrastes, sans dépendre en cela du poète et sans l'exposer à des contresens. Voilà la source de cette prodigieuse variété que les grands maîtres d'Italie savent répandre dans leurs opéras, sans jamais sortir de la nature. Variété qui prévient la monotonie, la langueur et l'ennui, et que les musiciens français ne peuvent imiter, parce que leurs mouvements sont donnés par le sens des paroles, et qu'ils sont forcés de s'y tenir, s'ils ne veulent tomber dans des contresens ridicules. À l'égard du récitatif dont il me reste à parler, il semble que pour en bien juger, il faudrait une fois savoir précisément ce que c'est. Car jusqu'ici, je ne sache pas que de tous ceux qui en ont disputé, personne se soit avisé de le définir. Je ne sais, monsieur, quelle idée vous pouvez avoir de ce mot. Quant à moi, j'appelle récitatif une déclamation harmonieuse, c'est-à-dire une déclamation dont toutes les inflexions se font par intervalles harmoniques. D'où il suit que, comme chaque langue a une déclamation qui lui est propre, chaque langue doit aussi avoir son récitatif particulier. Ce qui n'empêche pas qu'on ne puisse très bien comparer un récitatif à un autre, pour savoir lequel des deux est le meilleur ou celui qui se rapporte le mieux à son objet. Le récitatif est nécessaire dans les drames lyriques. Premièrement, pour lier l'action et rendre le spectacle un. Deuxièmement, pour faire valoir les airs dont la continuité deviendrait insupportable. Troisièmement, pour exprimer une multitude de choses qui ne peuvent ou ne doivent point être exprimées par la musique chantante et cadencée. La simple déclamation ne pouvait convenir à tout cela dans un ouvrage lyrique, parce que la transition de la parole au chant, et surtout du chant à la parole, a une dureté à laquelle l'oreille se prête difficilement, et forme un contraste ridicule qui détruit toute l'illusion, et par conséquent l'intérêt. Car il y a une sorte de vraisemblance qu'il faut conserver, même à l'opéra, en rendant le discours tellement uniforme que le tout puisse être pris au moins pour une langue hypothétique. Joignez à cela que le secours des accords augmente l'énergie de la déclamation harmonieuse et dédommage avantageusement de ce qu'elle a de moins naturel dans les intonations. Il est évident, d'après ses idées, que le meilleur récitatif, dans quelque langue que ce soit, si elle a d'ailleurs les conditions nécessaires, est celui qui approche le plus de la parole. S'il y en avait un qui en approcha tellement, en conservant l'harmonie qui lui convient, que l'oreille ou l'esprit pût s'y tromper, on devrait prononcer hardiment que celui-là aurait atteint toute la perfection dont aucun récitatif puisse être susceptible. Examinons maintenant sur cette règle ce qu'on appelle en France récitatif. Et dites-moi, je vous prie, quel rapport vous pouvez trouver entre ce récitatif et notre déclamation. Comment concevrez-vous jamais que la langue française, dont l'accent est si uni, si simple, si modeste, si peu chantant, soit bien rendue par les bruyantes et criardes intonations de ce récitatif ? Et qu'il y ait quelque rapport entre les douces inflexions de la parole et ces sons soutenus et renflés, ou plutôt ces cris éternels, qui font le tissu de cette partie de notre musique encore plus même que des airs. Faites, par exemple, réciter à quelqu'un qui sache lire les quatre premiers vers de la fameuse reconnaissance d'Iphigénie. À peine reconnaîtrez-vous quelques légères inégalités, quelques faibles inflexions de voix dans un récit tranquille, qui n'a rien de vif ni de passionné, rien qui doive engager celle qui le fait à élever ou à baisser la voix. Faites ensuite réciter, par une de nos actrices, ces mêmes vers sur la note du musicien. Et tâchez, si vous le pouvez, de supporter cette extravagante criaillerie, qui passe à chaque instant de bas en haut et de haut en bas, parcourt sans sujet toute l'étendue de la voix et suspend le récit hors de propos pour filer de beaux sons sur des syllabes qui ne signifient rien et qui ne forment aucun repos dans le sens. Qu'on joigne à cela les fredons, les cadences, les ports de voix qui reviennent à chaque instant, et qu'on me dise quelle analogie il peut y avoir entre la parole et toute cette maussade prétentaille, entre la déclamation et ce prétendu récitatif. Qu'on me montre au moins quelque côté par lequel on puisse raisonnablement vanter ce merveilleux récitatif français dont l'invention fait la gloire de Lully. C'est une chose assez plaisante que d'entendre les partisans de la musique française se retrancher dans le caractère de la langue et rejeter sur elle des défauts dont ils n'osent accuser leur idole. Tandis qu'il est de toute évidence que le meilleur récitatif qui peut convenir à la langue française doit être opposé presque en tout à celui qui y est usage. Qu'il doit rouler entre de fort petits intervalles, n'élever ni n'abaisser beaucoup la voix, peu de sons soutenus, jamais d'éclat, encore moins de cris, rien surtout qui ressemble au chant, peu d'inégalité dans la durée ou valeur des notes, ainsi que dans leur degré. En un mot, le vrai récitatif français, s'il peut y en avoir un, ne se trouvera que dans une route directement contraire à celle de Lully et de ses successeurs. Dans quelque route nouvelle, qu'assurément les compositeurs français, si fiers de leur faux savoir, et par conséquent si éloignés de sentir et d'aimer le véritable, ne s'aviseront pas de chercher sitôt, et que probablement ils ne trouveront jamais. Ce serait ici le lieu de vous montrer par l'exemple du récitatif italien que toutes les conditions que j'ai supposées dans un bon récitatif peuvent en effet s'y trouver, qu'il peut avoir à la fois toute la vivacité de la déclamation et toute l'énergie de l'harmonie, qu'il peut marcher aussi rapidement que la parole et être aussi mélodieux qu'un véritable chant, qu'il peut marquer toutes les inflexions dont les passions les plus véhémentes animent le discours, sans forcer la voix du chanteur, ni étourdir les oreilles de ceux qui écoutent. Je pourrais vous montrer comment, à l'aide d'une marche fondamentale particulière, on peut multiplier les modulations du récitatif d'une manière qui lui soit propre, et qui contribue à la distinguer des airs où, pour conserver les grâces de la mélodie, il faut changer de ton moins fréquemment. Comment, surtout, quand on veut donner à la passion le temps de déployer tous ses mouvements, on peut, à l'aide d'une symphonie habilement ménagée, faire exprimer à l'orchestre, par des chants pathétiques et variés, ce que l'acteur ne doit que réciter. Chef-d'œuvre de l'art du musicien, par lequel il faut, dans un récitatif obligé, note 15, joindre la mélodie la plus touchante à toute la véhémence de la déclamation, sans jamais confondre l'une avec l'autre. Je pourrais vous déployer les beautés sans nombre de cet admirable récitatif, dont on fait en France tant de contes aussi absurdes que les jugements qu'on s'y mêle d'emporter, comme si quelqu'un pouvait prononcer sur un récitatif sans connaître à fond la langue à laquelle il est propre. Mais pour entrer dans ces détails, il faudrait, pour ainsi dire, créer un nouveau dictionnaire, inventer à chaque instant des termes pour offrir aux lecteurs français des idées inconnues parmi eux, et leur tenir des discours qui leur paraîtraient du galimatias. En un mot, pour en être compris, il faudrait leur parler un langage qu'ils entendissent, et par conséquent de science et d'art de tout genre, excepté la seule musique. Je n'entrerai donc point sur cette matière dans un détail affecté qui ne servirait de rien pour l'instruction des lecteurs, et sur lequel ils pourraient présumer que je ne dois qu'à leur ignorance en cette partie la force apparente de mes preuves. Par la même raison, je ne tenterai pas non plus le parallèle qui a été proposé cet hiver dans un écrit adressé au petit prophète et à ses adversaires de deux morceaux de musique, l'un italien et l'autre français, qui y sont indiqués. La scène italienne, confondu en Italie, avec mille autres chefs-d'œuvre égaux et supérieurs, étant peu connu à Paris, peu de gens pourraient suivre la comparaison. Il se trouverait que je n'aurais parlé que pour le petit nombre de ceux qui savaient déjà ce que j'avais à leur dire. Mais quant à la scène française, j'en crayonnerais volontiers l'analyse avec d'autant plus de plaisir qu'étant le morceau consacré dans la nation par les plus unanimes suffrages, je n'aurais pas à craindre qu'on m'accuse d'avoir mis de la partialité dans le choix, ni d'avoir voulu soustraire mon jugement à celui des lecteurs par un sujet peu connu. Au reste, comme je ne puis examiner ce morceau sans en adopter le genre, au moins par hypothèse, c'est rendre à la musique française tout l'avantage que la raison m'a forcé de lui ôter dans le cours de cette lettre. C'est la juger sur ses propres règles. De sorte que, quand cette scène serait aussi parfaite qu'on le prétend, on n'en pourrait conclure autre chose sinon que c'est de la musique française bien faite, ce qui n'empêcherait pas que, le genre étant démontré mauvais, ce ne fut absolument de mauvaise musique. Il ne s'agit donc ici que de voir si l'on peut l'admettre pour bonne, au moins dans son genre.